d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, ils sont grecs mais parlent turc. Je vous parle d'une minorité turcophone qui vit en Thrace occidentale depuis des millénaires. Cette région tout à l'est de la Grèce, rattachée à ce pays à la fin de la Première Guerre mondiale, se trouve à la frontière de la Turquie. Et alors que les tensions entre Ankara et Athènes sont remontées d'un cran ces dernières semaines, la Grèce accusant la Turquie de la défier en Méditerranée orientale, eh bien cette minorité turcophone et musulmane craint d'être prise à partie dans ce bras de fer diplomatique. Anis Al-Jabri s'est rendu sur place, dans la petite ville de Xanti, à 1 heure de route de la Bulgarie, 2 heures de la Turquie. L'inquiétude y est palpable.
Où qu'on se trouve, à Xanti, on peut apercevoir quelque part au coin d'une rue une petite église orthodoxe ou bien le minaret discret d'une mosquée. 5 fois par jour, si on tend l'oreille dans les rues pavées de la vieille ville, on entend l'appel du muezzin. 40% de musulmans, souvent turcophones, 60% de chrétiens vivent ici, côte à côte. Les villages de montagne sont, eux, habités essentiellement par la minorité turcophone.
Après le coup d'état des colonels et l'instauration de la dictature en 1967, une frontière interne a été installée. Ici, c'était sous la forme d'une barrière entre les villages et l'entrée de Xanti. Personne ne pouvait passer sans les documents nécessaires, un permis spécifique établi par la police. La justification officielle était que la frontière avec la Bulgarie était tout près et qu'il fallait un poste militaire avancé dans le contexte de la guerre froide.
Ces barrages militaires aux portes des villages 100% turcophone, c'est toute l'enfance et la jeunesse de Sami Karabouyoulou, aujourd'hui journaliste de 50 ans à la télévision grecque, des barrières qui ont été retirées il y a 25 ans à peine.
Ça posait des problèmes pour l'intégration de la minorité. Parce que bien sûr, les gens souhaitaient s'intégrer, mais c'était plus dur à cette période. Ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'était pourquoi une barrière pour eux, et pas, par exemple, à la frontière avec la Yougoslavie, la Macédoine du Nord aujourd'hui. Les gens se disaient, pourquoi nous et pas les autres? Pourquoi l'État grec nous met la pression et nous traite différemment?
Impossible aujourd'hui encore de le savoir, les documents de l'époque sont toujours classifiés. En revanche, cette blessure peine à s'effacer. Depuis une quinzaine d'années, les enfants de la minorité vont dans les écoles grecques plutôt que dans les leurs, qui enseignent aussi en turc. Hüseyin Baltazi est parmi les tout premiers élèves de sa génération à être allé au collège grec. Cet élève brillant a aujourd'hui son cabinet de médecin aux fenêtres grandes ouvertes sur les montagnes. Pour lui, préserver son identité turcophone reste essentiel, sa langue et ses traditions.
Par exemple, pour le mariage, la mariée décore ses mains avec du henné, on appelle ça du kna. Il s'agit d'un maquillage spécial, c'est une tradition pour la mariée de maquiller ses mains comme ça. Elle porte une robe traditionnelle, mais il faut le voir vraiment, je ne peux pas le décrire. Ça fait peut-être 500 ans que nous avons ce type de robe. Nous avons la fête pour les enfants quand ils ont appris le Coran. Il ne s'agit pas d'une fête arabe, mais turco-ottomane, quand les enfants ont appris le Coran. Alors nous nous réunissons pour faire la fête. C'est l'équivalent du baptême chrétien. Ce sont des choses très simples de la vie quotidienne, mais qui sont la marque de notre identité.
Identité culturelle et linguistique, droits des minorités turques en Grèce et grecques en Turquie. Ankara comme Athènes en sont garantes depuis 1923, la signature du traité de Lausanne. Dans la pratique, ces citoyens sont souvent pris au milieu des tensions entre les deux pays. Zeypek Hüseyin le sait bien, député du parti de gauche, Syriza depuis 8 ans et issu de la minorité. On le rencontre au bureau du parti dans le centre de la ville.
Nous demandons l'égalité devant la loi et l'équité de traitement. Mais écoutez, ce sont nos problèmes à nous et ça n'est pas nouveau. Les interventions de l'extérieur sont le problème de ceux qui font les interventions. Mais il faut bien le noter, la minorité fait partie de la Grèce. Elle ne vient pas d'ailleurs, elle est d'ici depuis toujours. Alors l'influence des autres, c'est leur problème. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas donner le droit à quelqu'un de se mêler de nos affaires.
Sauf qu'au niveau national, ça ne se passe pas comme ça. Le président Erdogan accuse régulièrement la Grèce de ne pas traiter correctement la minorité turcophone sur son sol. Derrière son bureau du ministère de l'Intérieur et des Migrations à Athènes, Yorgos Koumoutsakos se fait très ferme.
On parle ici de citoyens grecs de religion musulmane. Des Grecs qui ont les mêmes droits que les autres. Ils votent, travaillent, ont accès à leur lieu de culte, à l'éducation, vivent et coexistent dans la paix absolue et sans problème avec les autres Grecs orthodoxes dans la même région. Et en même temps, la population de la minorité orthodoxe en Turquie, et en particulier à Istanbul, a diminué d'une manière dramatique, après des persécutions, des mesures punitives. Alors je pose la question, de quel droit M. Erdogan se permet-il de s'exprimer sur la minorité turcophone en Grèce ?
Quand le torchon brûle entre Athènes et Ankara, c'est l'inquiétude en Thrace. Les mauvais souvenirs du passé remontent dans la minorité turcophone grecque. Jamais un pic de tension n'a été aussi long dans l'histoire des deux pays.
Un honneur pour moi de présenter le confirmé président de la région Veneto, Luca Zaia.
Non nego che è un'emozione. Veramente grazie di cuore.
C'est la grande figure des élections régionales partielles qui ont eu lieu en Italie le week-end dernier. Luca Zaia, la nouvelle mascotte de la Ligue, a été triomphalement réélu dans sa région, la Vénétie, au nord-est de la péninsule. L'homme politique est populaire au point de faire de l'ombre au chef de son groupe, Matteo Salvini. Et c'est en partie car son ascension fulgurante défraie la chronique. Élu conseiller à 27 ans, plus jeune président d'une province en Italie à tout juste 30 ans, voilà 10 ans qu'il règne sur sa région, réélu avec un score à faire pâlir ses adversaires. Son portrait, signé Eric Sénanc.
Nommé ministre de l'Agriculture par Silvio Berlusconi en 2008, Luca Zaia raflera 2 ans plus tard la région Vénétie, au nord-est de l'Italie, d'où il ne cesse aujourd'hui de demander plus d'autonomie. Son credo, développer le fédéralisme dans la péninsule et rompre avec le centralisme romain inefficace à ses yeux. « Nous voulons être un catalyseur pour toute l'Italie », martèle-t-il en vantant son modèle régional. Un modèle qui a montré ses résultats au plus fort de la crise sanitaire au printemps, avec des mesures rapides de prévention et une politique massive de tests, les services d'urgence en Vénétie n'ont jamais été débordés, contrairement à la Lombardie voisine. L'an dernier déjà, un sondage faisait de Zaia le plus apprécié des 20 gouverneurs régionaux d'Italie. Sa popularité est aujourd'hui au plus haut, au point de faire de l'ombre à Matteo Salvini lui-même. Le populisme anti-Bruxelles du chef de la Ligue est de plus en plus contesté au sein de son parti, alors que le gouverneur de Vénétie, pourtant membre de la Ligue lui aussi, a toujours pris soin de ménager l'Europe. C'est un pragmatique qui parle à tout le monde, résume l'un de ses anciens conseillers. Son style, plus modéré que celui du chef de la Ligue, a fait mouche et beaucoup lui prédisent aujourd'hui un destin national, même si l'homme politique ne jure pour l'instant que par la défense des intérêts de sa région. Il a les cartes en main pour devenir le leader d'une droite plus modérée en Italie, résumait il y a quelques jours encore l'un de ses opposants, l'ancien président du Conseil, Matteo Renzi.
Brick Lane, cette longue rue de l'est de Londres mondialement connue, serait-elle en train de perdre son âme ? Voilà plusieurs années que les restaurants de curry qui ont fait la réputation de Brick Lane ferment les uns après les autres face à la flambée des loyers. Et désormais, le Covid-19 et ses restrictions sanitaires pourraient bien donner le coup de grâce à celle qu'on surnommait il y a peu encore Curry Lane, le reportage de Marie Billon.
La fameuse rue à l'est de Londres est méconnaissable. Trottoir désert, rideau en fer tiré, nom de restaurant effacé sur les devantures. Et ça n'est pas seulement à cause du coronavirus. Au début des années 2000, cette rue était appelée Curry Lane, en référence au bon curry qu'on pouvait y manger. Mais les uns après les autres, les établissements ont fermé. Et la crise sanitaire en force encore d'autres à mettre définitivement la clé sous la porte.
Là, on voit quelques-uns des restaurants originaux qui survivent encore, comme le Aladdin. Là, plus loin, il y avait un des plus grands établissement. C'est maintenant une pizzeria. Celui-là est devenu un glacier. Et l'autre, là, c'est maintenant un restaurant chinois. Avant, cette rue était bordée de restaurants de curry, 62 en tout. Aujourd'hui, il n'en reste que 22. Et encore, 4, je crois, ont déjà prévu de ne pas rouvrir. Le coronavirus, c'est le dernier clou dans le cercueil de Brick Lane.
Bachir Ahmed est le président de la chambre de commerce bungalow-britannique, dont les locaux sont situés juste à côté de Brick Lane. Lui-même avait un restaurant par ici il y a quelques années, mais il a déménagé au sud-est de Londres. L'une des raisons principales était le prix du loyer. C'est aussi ce qui a poussé Abdul Ahad à vendre l'un de ses deux restaurants sur Brick Lane en 2015.
Le loyer était monté à 50 000 livres sterling et l'impôt sur la société à 15 000 livres. On se retrouve avec l'équivalent de 70 000 euros par an. Je perdais de l'argent parce qu'un restaurant a un nombre de couverts maximum. Alors, si le loyer augmente trop et les prix de la matière première aussi, ça vaut plus le coup.
Abdul est assis à une table sur la terrasse du restaurant qu'il a gardé, le City Spice. Mais il n'y a aucun client en vue, ni à l'intérieur, ni dehors. Avec le coronavirus, le restaurateur est passé d'une vingtaine d'employés à seulement deux, dit-il. Certains soirs, il n'a aucun client. Et depuis hier, il doit fermer à 22h en raison des nouvelles restrictions gouvernementales dues au coronavirus.
C'est mort, on est foutu. Les subventions Covid ont dû être utilisées pour payer le loyer. Le prêt d'urgence a permis de payer nos fournisseurs pour des factures précédentes, mais c'est tout.
Mais les soucis de Brick Lane ont commencé bien avant le coronavirus, raconte Bachir Ahmed.
Brick Lane a été abandonné suite au renouvellement du quartier et à sa gentrification. La rue n'a pas eu le soutien des autorités locales et du gouvernement qu'elle aurait dû avoir. Et nous n'avons pas non plus su nous adapter aux désirs de la clientèle. La majorité de nos clients ont moins de 30 ans. Ils veulent manger sain, moins gras. C'est pour ça que les jeunes vont plutôt dans les nouveaux restaurants branchés.
Mais le problème, c'est aussi que les jeunes générations n'ont pas eu envie de reprendre les restaurants de leurs parents ou de faire carrière dans la restauration. L'ex-premier ministre David Cameron avait, au début des années 2010, ouvert des collèges du curry pour parer justement à l'absence de passage de relais entre les générations et inciter tous les Britanniques à apprendre à faire du curry. Mais ce fut un gros échec. Et pour compliquer la donne, affirme Bachir, le gouvernement a aussi drastiquement resserré les conditions d'immigration.
Le gouvernement ne veut penser qu'en termes de politique migratoire. Mais quand on a un secteur comme le nôtre, qui dépend à 70% de travailleurs qualifiés provenant de pays étrangers, on ne peut pas penser en termes politiques. Il faut nous laisser décider pour nous-mêmes, parce que le résultat, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas recruter à l'étranger. Or, le manque de personnel contribue à tuer nos restaurants.
Pour être recruté d'un pays tiers, l'employé doit gagner l'équivalent de 40 000 euros par an. Un salaire bien trop élevé pour les restaurateurs, surtout actuellement. Mais Shams Houdin, l'un des plus anciens restaurateurs de Brick Lane et propriétaire de Monsoon, ne veut même plus penser à ce qui lui donnait des cheveux blancs il y a encore quelques mois. Selon lui, le problème est ailleurs désormais.
Londres tout entière est enfermée dans un cercueil. Il faut la libérer. Il faut que les jeunes ressortent dans la rue, aillent au travail et comme ça, ils auront de l'argent pour aller au restaurant.
Les restaurants de Brick Lane qui ont survécu à la gentrification grâce notamment à sa proximité avec la City ne sont pas tirés d'affaire, car maintenant qu'elle est vide de ses travailleurs, Curry Lane pourrait perdre sa dernière chance de survie.
This virus doesn't discriminate. It attacks everyone.
The coronavirus has changed life as we know it, but how did we go from zero cases to having more than any other country?
Des monuments dédiés au coronavirus. C'est l'étrange projet qu'a lancé la ville de Graz, au sud de Vienne, en Autriche. 220 artistes locaux ont été invités par un grand musée de la ville à travailler sur ce que signifie cette pandémie et à imaginer des œuvres. Au final, trois projets ont été retenus. Les premiers devraient voir le jour au printemps prochain, Céline Béal.
La pandémie n'a certes pas pris fin en Autriche, au contraire, elle repart de plus belle. Mais le musée ne veut pas attendre pour documenter ces jours particuliers de l'histoire contemporaine. Le premier des lauréats s'appelle Werner Reiterer. Il a choisi la forme d'une grande boule noire de 2 mètres de diamètre et lourde de plusieurs tonnes. Cette sphère en fer s'enfoncera d'année en année dans le sol. Son mouvement ressemble à celui du virus qui pénètre une cellule humaine. Mais sa lenteur représente aussi le temps qu'il faudra pour oublier le coronavirus. Dans ses esquisses, l'artiste prévoit bien 90 ans avant que la boule symbole du virus ne disparaisse. L'autre gagnant de cet appel à création artistique, Michel Schuster, veut inscrire le mot Covid-19 en grand caractère de métal sur un socle de béton. Les lettres auront un aspect déchiqueté pour évoquer les incertitudes et les inégalités sociales face à la maladie, avec des lumières clignotantes pour augmenter l'effet de malaise. Enfin, le troisième artiste, Wolfgang Becksteiner, veut ériger un monument qui incarne la fameuse distanciation sociale. Deux murs de béton parallèles situés à un mètre l'un de l'autre. Les personnes qui viendront y circuler devront ressentir la distance, l'isolation, la solitude. Mais les murs resteront ouverts à leurs extrémités, symbole que la pandémie, elle aussi, aura un jour une fin.
Next record. Oh, maybe the critics won't like it.
Vendredi, et on est avec Vincent Teval pour la musique. Bonjour.
Bonjour Léalisa, bonjour à tous.
Un peu de rock espagnol aujourd'hui avec le groupe Melenas.
Oui, à Pamplune, au nord de l'Espagne, qui est une ville certainement plus connue pour ses fêtes estivales que pour sa scène rock. C'est bien là, pourtant, que s'est formé en 2016 le quartet féminin Melenas, auteur déjà d'un premier album remarqué en 2018, remarqué notamment par un label américain, Trouble in Mind, qui publie cette année le deuxième album du groupe Dias Raros. Jours étranges, titre parfait pour un disque qui évoque l'enfermement, la solitude et les monologues intérieurs. Avec ses mélodies douces amères et des voix mixées très en retrait, Melenas évoque à la fois les girl bands des années 60 et la pop à guitare des années 90.
C'était Melena sur RFI avec le titre « No puedo pensar ». Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Pour nous réécouter, nous retrouver, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast ou sur notre plateforme de diffusion préférée. À lundi.